info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Sporama. Timothée Donangmaï avec vous ce soir. Comme tous les lundis soirs dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Avec nous ce soir et comme d'habitude, nos consultants, Jules-Valentin Goué à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Et nous avons, comme toujours, Élisée Patine à Boïkon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Timothée, bienvenue à Boïkon au Bénin.
Et nous attendons bien sûr vos appels en direct dans ce studio 13, le 001 pour les États-Unis, 202-619-3140, 001, le code des États-Unis, 202-619-3140. Nous ouvrons cette édition de Sporama par le coup d'envoi du championnat d'Afrique des moins de 23 ans. Le coup d'envoi des éliminatoires. Donc, bonne entrée en compétition du Botswana, victorieux par 3-0 du Kenya. Un match aller du premier tour, le Rwanda s'est imposé 2-0 face à la Somalie et le Ghana a battu le Libéria 2-0 également. La Mauritanie et la Sierra Leone sont qualifiés pour le tour suivant à la faveur des retraits de la Libye et de la Guinée-Bissau respectivement. Alors Jules-Valentin Goué, c'est le début d'un processus en trois étapes qui aboutira à l'émergence de cette équipe qui retrouveront en décembre le Sénégal pour la phase finale de cette compétition.
Oui, bien sûr, et dans une catégorie clé qui est celle des Olympiques, parce que les moins de 23 ans, c'est en quelque sorte l'antichambre de l'équipe nationale déjà, et on y retrouve des joueurs relativement jeunes, mais qui ont déjà en fait dépassé le stade de l'initiation et qui peuvent déjà prétendre à une carrière en matière de football.
Alors, on est qu'au début de ces éliminatoires. Élisée Patine, quelle remarque?
Bon, pas totalement. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les Ghanéens ont pris part le tour préliminaire, vu ce que ce pays a démontré concernant le football africain. On aurait pu le voir au second tour, mais voilà, le Ghana a pris part les préliminaires pour affronter le Libéria. Heureusement que cette équipe s'est imposée face à ces Libériens. Maintenant, tout reste à faire, puisque là, la deuxième et la troisième partie, ce sont sept équipes qui seront qualifiées pour la phase finale. Et n'oublions pas que les trois meilleurs à l'issue du championnat d'Afrique qui aura lieu au Sénégal, eh bien, ces trois meilleurs seront qualifiés pour les Jeux Olympiques qui auront lieu du côté de Rio de Janeiro au Brésil.
Alors, Jules-Valentin Goué, les Jeux Olympiques où les Africains par le passé se sont illustrés en football?
Bien sûr, on pense notamment aux deux victoires successives du Nigeria et du Cameroun en 1976 et en 2000, en 1996 plutôt, en 2000. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que 4 ans avant, en 92, le Ghana avait gagné la médaille de bronze. Donc, l'Afrique est habituée à bien nous représenter dans cette catégorie, étant donné que l'Afrique c'est en quelque sorte le pourvoyeur de la matière première dans le football mondial. Et à 23 ans, c'est des joueurs pratiquement qui sont sûrs de faire au moins une carrière moyenne.
Élisée Patine?
Oui, parce que c'est vrai qu'en 1996 et en 2000, le Nigeria et le Cameroun se sont illustrés. Maintenant, depuis un certain moment, on a compris que ce tournoi se joue pratiquement entre les équipes sud-américaines et les européennes. Maintenant, à l'issue de ces jeux qui auront lieu au Sénégal, il faudra maintenant commencer par penser au titre final, puisque là maintenant, le football, il faudra bien se préparer pour aller à l'assaut. L'Argentine, qu'on connaît très bien avec le Real Messi, avait remporté une édition en battant en finale le Nigeria. Maintenant, il faudra bien se préparer pour ne pas connaître encore cette désillusion. Mais tout compte fait, nous avons de très belles formations sur le continent africain. Le seul problème, c'est la préparation. Et je pense que prochainement, tout cela sera pris en compte. Et puis, l'Afrique fera une très bonne prestation du côté de Rio de Janeiro.
Sporama. Sporama sur les ondes de VOA Afrique. Timothée Donangmaï avec vous ce soir. Nos consultants Jules-Valentin Ngoué, Élisée Ongpatine. Nous allons rester en Afrique pour parler maintenant de ce retour triomphal de l'équipe malgache de beach soccer après son trophée continental arraché contre le Sénégal aux Seychelles. Également championne d'Afrique australe, l'équipe malgache a été accueillie à son retour à Antananarivo par le ministre des Sports, à qui elle a présenté ces deux trophées. Alors, Jules-Valentin Ngoué, un énorme succès sportif pour la Grande Île.
Oui, un énorme succès sportif pour la Grande Île. Et le beach, le football de plage est une épreuve qui sourit très souvent aux équipes qui ont quand même une zone côtière assez animée sur le plan touristique et dont le potentiel déjà était là. Et aussi, l'épreuve se jouait à quelques pas de Madagascar, aux îles Seychelles, comme vous l'avez dit. Et peut-être le troisième phénomène, c'est aussi que depuis que cette compétition a commencé en Afrique, il est difficile de trouver des équipes régulièrement aux premières places et les équipes s'échangent au fur et à mesure.
Élisée Ongpatine, l'Afrique, les pays africains, du moins un certain nombre de pays africains ont des plages. Et quel est le niveau de développement de cette compétition en Afrique aujourd'hui?
C'est une compétition qui n'est pas très connue. Jules l'a déjà dit, il y a des pays qui animent ce genre de discipline, mais c'est une discipline qui n'est pas totalement très connue. Vous avez, le Sénégal a déjà dominé cette compétition durant les deux dernières années. Aujourd'hui, Madagascar a pris sa revanche. Donc, c'est-à-dire que le plus important, c'est de commencer par montrer à ce continent la valeur réelle de cette discipline qui est le beach soccer. C'est comme ça quand le football féminin a commencé par prendre son émergence sur le continent. Maintenant, le beach soccer, c'est une discipline pas très connue, mais il y a un travail qui se fait. La CAF essaie quand même de permettre à ces pays-là qui aiment le football de commencer par exercer cette discipline, mais je pense que ça pourra aller vu le nombre de participants qu'a connu cette compétition du côté des Seychelles. Les années à venir vont nous édifier par rapport aux pays qui pratiquent cette discipline sur le continent africain.
Passons maintenant au football européen. Le suspense est à son comble en attendant les demi-finales de la Ligue des Champions qui mettront aux prises la Juventus et le Real Madrid d'une part, le Bayern et Barcelone de l'autre, des clubs européens de premier plan. Jules-Valentin Ngoué, les forces en présence.
Oui, il faut d'abord dire que nous avons vraiment peut-être les quatre meilleures équipes de l'année, et non seulement de l'année, mais aussi les ténors du football européen depuis très longtemps. Et ce quadrant nous présente, comme d'habitude depuis quelques années, trois équipes, dont en majorité des équipes de l'Europe du Sud, où on joue au football méditerranéen, un football méditerranéen très technique. Et finalement, en Europe du Nord, nous avons que le Bayern de Munich, donc dans la partie germanique de l'Europe. Alors, là aussi, c'est une tradition récente et nous pensons que les demi-finales seront pratiquement très difficiles. Le Real Madrid, le Bayern, Barcelone, ce sont des favoris, mais attention aux outsiders, la Juventus de Turin, qui est une équipe très soignée en défense. Et à ce stade de la compétition, souvent, les équipes défensives arrivent à tirer les marrons du feu.
Élisée Ongpatine.
Nous allons assister à deux belles affiches. Jules l'a dit, il a montré la force des équipes présentes pour cette demi-finale. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est dire qu'on a remarqué que depuis un certain moment, le football espagnol et allemand ont commencé par émerger. La grande déception, il faut mettre à l'actif de l'Angleterre qui n'a connu aucune équipe en demi-finale durant cette édition de cette Ligue des Champions. Maintenant, la vieille dame, la Juventus de Turin, qui n'a plus connu cette étape depuis très longtemps. Et n'oublions pas que le Real et la Juve sont restés dans les mêmes groupes, hein, et avantage pour l'équipe madrilène, mais en début finale, ce sera le match aller-retour qui compte, donc l'équipe défensive pourra faire les affaires, mais n'oublions pas aussi la forme est insolente, hein, que connaît actuellement les merengues, puisque là, depuis un certain moment, ça a commencé pas à marcher. Maintenant, l'autre affiche entre le Bayern et le FC Barcelone, l'avantage, hein, il faut mettre l'actif des Bavarois, qui sont déjà sacrés champions dans le championnat, donc prochainement, hein, je pense, hein, que Guardiola pourra miser sur quelques joueurs réservistes qui ne se sont pas encore illustrés durant le championnat. Donc le Bayern va avoir des joueurs un peu frais par rapport aux Barcelonais qui sont en train de lutter actuellement pour la Liga. Et là, nous allons assister à une très belle affiche, hein, puisque Guardiola, ancien entraîneur du FC Barcelone, va nécessairement gagner cette partie du côté de Luis Enrique. Ça ne va pas pardonner. Donc là, pour moi, la grande affiche, la finale avant la lettre, c'est entre le Barcelone et le Bayern de Munich. Mais l'équipe qui va se montrer encore plus déterminée va remporter cette partie. Mais attention, attention, n'oublions pas, on va quand même jouer sur la Juventus de Turin, pas le FC Barcelone qui, avec son trio d'attaque, fait peur, la meilleure attaque des championnats européens cette saison. C'est bien sûr le trio Neymar, Messi et bien sûr Suarez. N'oublions pas aussi BBC, Bill Benzema et Cristiano Ronaldo.
Alors, beaucoup de réactions sur notre Facebook. Nous commençons par notre ami Chocorobino Keita du Mali. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, allez-y.
Bon, je pense que le Bayern n'est pas favori parce que malgré la situation de leurs champions, ils sont sacrés déjà champions. Je pense que c'est une revanche, le Barcelone et le Bayern Munich, parce que Guardiola étant ex-entraîneur du Barça, je pense qu'il connaît la stratégie des points faibles du Barcelone. Il va essayer de maîtriser cette équipe. Je pense que le Bayern n'est pas favori dans cette situation, dans cette affaire.
Jules Valentin Gouy, le Bayern favori?
Oui, c'est difficile à dire. Je crois que nous avons là d'abord deux équipes très offensives. Donc, généralement, les équipes chercheront à prendre le ballon à leur compte. Le Bayern a un collectif formidable. C'est le cas également pour Barcelone. Donc, vraiment, tout se jouera sur les détails. Et Barcelone présente en attaque trois attaquants extrêmement bons qui, individuellement, peuvent à tout moment faire la différence, tandis que le Bayern Munich compte plus sur la qualité offensive collective. Bon, donc, tout se jouera pratiquement sur un détail. Je pense que attendons le match pour nous faire aller, surtout pour nous faire certaines idées.
Un autre avis sur ces demi-finales de la Ligue des Champions en Europe, celui d'Aliou Touré du Sénégal. Bonsoir Aliou.
Ouais, bonjour. Bonjour.
Voilà, allez-y.
Ouais, bon, pour moi, mon avis, le favori, c'est le FC Barcelone.
Pourquoi?
Ouais, parce que dans ce moment, l'attaquant du FC Barcelone, il avait plus de... Parce que quand tu as vu le MSN, Messi, Suarez et Neymar, ils sont plus forts que les autres. Il y a d'autres là-bas, au Bayern, Lewandowski, il n'est pas encore fort dans ce moment-là. Il a trouvé des buts, en même temps, il a fait des passes décisives. Et si tu vois le Real Madrid, il avait le Benzema, comme on a dit, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Et pour moi, le favori, c'est le Barcelone. Mais attention aux Juventus, parce qu'on était 2003, je pense que c'est le Juventus qui a éliminé le Real Madrid.
Ah, merci Aliou Touré. Élisée, ouais. Cet auditeur ouais. Mise sur Barcelone.
Bien évidemment, hein, puisque le FC Barcelone a connu un début de saison difficile et depuis le mois de novembre a retrouvé son jeu. Mais n'oublions pas, hein, puisque les clubs allemands misent énormément sur le collectif. Hein. C'est vrai que côté barcelonais, le collectif est après le trio d'attaque avec une énorme individualité. Mais prenons en compte aussi l'attaque du Bayern de Munich qui marque énormément, hein, tout comme l'attaque du FC Barcelone. Donc, Jules l'a dit, il faut
faudra d'abord voir le match aller pour pouvoir se fixer. Maintenant, favori pour le titre final, je ne pense pas, puisque depuis le mois de mars, le Real est dans une forme étincelante, hein, surtout. Et on ne pensait pas tellement que cette équipe pourra passer l'étape d'Atlético, puisque ce club a plusieurs joueurs blessés, notamment Bale, Benzema, encore Luka Modric, le maître à jouer au milieu de terrain, mais qui a pu passer l'étape de l'Atlético. Et surtout en championnat, on a vu une victoire marquante, hein, face à cet Abigo qui a même battu l'FC Barcelone en championnat. Donc, c'est dit que pour le titre final, ce serait difficile. Mais contre la double confrontation contre le Bayern de Munich, il faut dire qu'il faut prendre au sérieux les Munichois qui sont des habitués à ce niveau de la compétition. Et n'oublions pas que la dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions, ça a marché pour le Bayern de Munich qui s'est imposé 4-1 à l'aller et allait même battre le FC Barcelone à domicile sur une large victoire de 4-2. Donc, c'est dire qu'il faudra compter sur ces Allemands. Et n'oublions pas qu'à la tête de cette équipe bavaroise, il y a un certain Joseph Guardiola.
Alors, Gilles Valentin-Goué et notre ami Fontaine Kalissa, sans attendre les demi-finales, anticipent une finale 100% espagnole dans cette Ligue des Champions, Gilles.
Oui, c'est peut-être aussi le vœu de l'UEFA depuis quelques années, avoir un classico à l'échelle mondiale. Mais on l'a vu l'année où deux équipes allemandes se sont retrouvées en finale, et le classico n'avait pas eu lieu. Donc, attendons de voir vraiment, on a affaire à quatre géants du football européen, donc tout est possible.
Sporama tous les lundis soirs sur les ondes de VOA Afrique. Timothée Donangmaï en votre compagnie ce soir. Nous avons en ligne de Libreville Jules Valentin Goué et de Boïcon au Bénin Élisée Ongpatine. Un mot d'athlétisme avec le triomphe du Kenya et de l'Éthiopie au marathon de Londres hier. Le Kenyan Eliud Kipchoge s'est imposé chez les hommes avec un chrono de 2h04'42 devant ses compatriotes Wilson Kipsang, le vainqueur de l'édition précédente, et Denis Kimeto, qui détient le record du monde de la distance. L'Afrique s'est également illustrée chez les dames avec la victoire de l'Éthiopienne Tigist Toufa en 2h23'23 devant la Kenyane Mary Keitany et l'Éthiopienne, une autre Éthiopienne, donc Tirfi Tsegaye. Et puis, Jules, fin hier à Libreville du championnat d'Afrique de judo, une compétition dominée par l'Afrique du Nord, Jules.
Envie de dire toujours dominée par l'Afrique du Nord, la Tunisie qui a pris 8 médailles d'or, suivie de l'Algérie avec 4 médailles et le Maroc 2, ensuite l'Égypte. Donc l'Afrique au sud du Sahara a eu en quelque sorte que des miettes, étant donné que le judo y est développé mais n'est pas disons aussi régulier dans les résultats que l'Afrique du Nord.
Élisée Ongpatine, cette domination du judo par l'Afrique du Nord, quelques indices, quelques explications?
Oui, souvent ces disciplines ont besoin d'une grande préparation, notamment une grande organisation. Et quand on connaît un peu l'Afrique du Nord, c'est pas seulement en judo, même dans les autres disciplines, c'est une partie de l'Afrique qui se met au sérieux. La grande déception, il faut mettre à l'actif du Sénégal, le Sénégal qui maîtrise bien cette discipline, surtout en Afrique de l'Ouest, mais qui n'a pas pu se faire illustrer dans ce tournoi. Maintenant, l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, la déception, il faut mettre à l'actif de l'Égypte, qui aussi a de très bons combattants, mais qui n'ont pas pu rivaliser, surtout avec les Tunisiens, qui ont fait forte sensation. C'est une première et il faut les féliciter.
Jules, l'Afrique du Nord, c'est la région où l'on retrouve de véritables clubs sportifs, des clubs qui, en plus du sport collectif, ont aussi d'autres sports au programme.
Bien sûr, et qui sont aussi ouverts sur le monde. Et l'Europe est de l'autre côté de la Méditerranée, donc dans les grandes compétitions avec l'Europe, avec l'Asie, le Moyen-Orient, les compétiteurs ont toujours des compétitions de haut niveau et en même temps se frottent aux meilleurs spécialistes du monde. Donc dans tous les sports, cette partie de l'Afrique est disons géographiquement favorisée.
Voilà, avant de nous quitter, les playoffs de la NBA ici aux États-Unis, Cleveland s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant Boston 4-0. Les Clippers se sont imposés 114-105 face à San Antonio, 2-2. Qualification pour Washington, 4-0 face à Toronto. Et Houston et les Mavericks de Dallas qui doivent continuer de s'expliquer. Voilà, c'est tout pour Sporama. Merci à Jules-Valentin Goué, Élisée Patine, à tous les auditeurs. Rendez-vous tous les lundis soirs sur VOA Afrique.